Voilà, si vous le permettez, je vais prier encore. Éternel, nous voulons, dans ces instants, nous mettre à la lumière de ta parole. Merci, Éternel, pour ces chants qui sont montés vers toi. Merci parce que tu connais chacun en particulier. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de John, de ce que tu as fait dans la vie de beaucoup encore cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ces moments, tu puisses encore nous parler et nous communiquer quelque chose qui va, Seigneur, pouvoir transformer nos vies et nous apporter, Seigneur, la lumière céleste. Merci, Éternel. Amen. Amen. Bonjour à chacun. Nous allons ouvrir la parole dans un premier texte qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12. 1 Timothée chapitre 1, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même et qui raconte justement ce qui s'est passé dans sa vie, ce que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Paul. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Il est dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Est-ce que cet après-midi, il y aurait des personnes qui voudraient avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà et qui voudraient la garder, la vie éternelle? Il y en a quelques-uns, j'espère. Bon, je sais que vous êtes timides. Mais l'exemple de l'apôtre Paul est donné pour ceux qui croiraient en vue de la vie éternelle. Donc si nous voulons chérir cette vie éternelle, si nous voulons la recevoir, si on ne l'a pas du tout, eh bien, nous devons fixer nos regards sur l'apôtre Paul, sur l'exemple surtout qu'il nous a laissé au travers de Jésus-Christ. Mais avant d'étudier en détail, avant d'aller dans Acte 9, on va aller faire un tour dans les psaumes. Et un verset dans les psaumes a attiré mon attention, le psaume 46, verset 11, qui concerne justement l'expérience que l'apôtre Paul a vécue sur le chemin de Damas et l'expérience qui nous a tous touché un jour, qu'on en a tous vécu aussi pour notre part. Un petit verset, mais qui veut dire beaucoup de choses. Psaume 46, verset 11, c'est Dieu qui parle et qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Amen. Il y a des moments dans nos vies où Dieu a besoin que nous nous arrêtions et Dieu permet les circonstances, chacune différente. Pour John, ça a été un jour alors qu'il est venu à l'église, il est tombé sur une amie, etc., qu'il a amené ici, ça lui a permis de prendre un temps dans sa vie où il s'est arrêté, il a réfléchi. Et tous autant que nous sommes, qui avons rencontré le Seigneur, ça s'est passé de la même manière. On va aller voir dans l'exemple de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, ça s'est passé, l'apôtre Paul c'est quelque chose d'encore particulier parce que ça s'est passé de manière physique. Il était sur un cheval et la présence de Dieu a fait qu'il s'est arrêté totalement, il est tombé de cheval. Mais il s'est arrêté autant physiquement que spirituellement, il a commencé à faire un point, un constat dans sa vie et combien c'est bon les moments dans nos vies où on fait des constats, où on s'arrête un instant et on réfléchit. Est-ce que vous aimez poser des questions au Seigneur? Est-ce que c'est bien? Je dirais oui et non. Ça dépend de la question. Et si c'est Seigneur, pourquoi tu agis pas? Ce n'est pas des bonnes questions. Est-ce que c'est bien que Dieu nous pose des questions? Bon, ça c'est toujours bien. Quand Dieu, par contre, nous parle et nous pose une question, c'est toujours bien. Mais nous, les questions qu'on pose au Seigneur, elles ne sont pas forcément indiquées. On voit que l'apôtre Paul, il va vivre un processus dans ce moment d'arrêt, quand Dieu arrête sa vie à ce moment-là. Alors, il ne coupe pas le fil de sa vie, mais il l'arrête dans ces circonstances. Regardez ce qui se passe. Verset 1er. « Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » On s'arrête là un instant. Vous vous rendez compte que le Seigneur avait prévu que l'apôtre Paul passe par là et avait prévu d'arrêter l'apôtre Paul à ce moment-là. Bon, il s'appelait Saul, bien sûr. Mais combien c'est quelque chose de merveilleux de savoir ce qui, quand on connaît la suite, comment cet homme va être utilisé de la part de Dieu. Dieu avait prévu tout un processus, et ce processus, il a commencé par cette question, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et en plus, il répète à deux reprises le prénom. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui le correspond à lui parfaitement. Comme cet après-midi, le Seigneur peut vous poser une question, « Pourquoi fais-tu ce que tu fais actuellement ? Pourquoi est-ce que tu fais encore ceci ?» Il y a dans la parole de Dieu de nombreux exemples de personnes qui ont été arrêtées par le Seigneur au moment donné dans leur vie. Je me souviens de l'exemple d'Élie, par exemple, quand il était au bord de la dépression, cet homme. Pourtant, il venait de vivre des choses fabuleuses. Il venait de vivre des victoires impressionnantes sur l'idolâtrie. Et pourtant, cet homme est dans la dépression, quasiment. Et le Seigneur prend soin de lui, lui donne à manger, etc. Vous connaissez l'histoire. Et il se retrouve devant une caverne. Et vous savez ce que le Seigneur lui pose comme question ? Que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à cette question ? Pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons ici ? Bien sûr, je ne parle pas du bâtiment. Mais que faisons-nous dans notre vie ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce que nous sommes bien ? Élie, quand Dieu lui pose la question, il était justement dans ce découragement intensif. Et le fait d'avoir cette question du Seigneur, ça l'a amené à la réflexion. Combien on a besoin de ces moments dans notre vie où le Seigneur nous arrête, et où on réfléchit, et où on sonde nos cœurs, et où on laisse nos cœurs être sondés par la parole de Dieu. Et vous imaginez avec moi un instant ce qui s'est passé dans le cœur de l'apôtre Paul quand il a entendu cette phrase. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Saul commence à réfléchir, mais je ne persécute personne, moi. Je ne fais que mettre en prison ceux qui doivent aller en prison. Quand Saul, plutôt, il mettait les gens en prison, il le faisait de tout son cœur et il le faisait pour Dieu. Il le faisait avec des bons motifs. Sauf qu'il faisait, le fruit qui sortait de cela, c'était des menaces et le meurtre, etc. C'était un cœur qui était totalement renfermé par la religion. Et pourtant, cet homme était profondément honnête. Mais il se fourvoyait. Et alors qu'il était en train de dire, mais je ne fais que mettre en prison des personnes qui croient dans Jésus, mais ce Jésus-là, il est mort. Vous avez vu comment le Seigneur y parle après ? Il y a un travail qui se fait dans le cœur de l'apôtre Paul qui fait qu'il pose la question « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis le Jésus que tu dis à tout le monde qu'il est mort et que tu fais mettre les gens en prison à cause de ça. Mais je suis vivant. » C'est tout ça que ça voulait dire, cette phrase. Et quand cet homme a commencé à entendre cette parole, il s'est bien rendu compte que ce n'était pas quelque chose d'anodin qui se passait. Vous imaginez une lumière qui brille dans le ciel au point qu'il devient aveugle par la suite. Il tombe de son cheval, une voix qui lui parle, il voit un homme qui lui parle. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de surnaturel. Et il s'est rendu compte que le Jésus qu'il combattait, il était déjà, de un, il était vivant, mais en plus c'était Dieu. Par la suite, on va voir que quand il se sera vraiment converti, il va annoncer partout que Jésus est le Fils de Dieu. Combien c'est bon quand on prend ces moments d'arrêt, que nos cœurs sont travaillés. Et des fois, le Seigneur nous pose des questions, il nous dit, mais que fais-tu ? Pourquoi est-ce que tu fais ceci ? Pourquoi est-ce que tu fais cela ? Dans le jardin d'Éden, à un moment donné, il y a l'homme qui a choisi de manger le fruit défendu, et qu'est-ce qui se passe ? Dieu qui pose la question, où es-tu ? Alors, je vous pose la question, est-ce que Dieu ne savait pas où était l'homme ? Dieu est omniscient, il sait tout. Omniprésent, il savait exactement où c'est qu'il se trouvait l'homme. Mais quand Dieu nous pose des questions, ce n'est pas pour qu'il sache la réponse. C'est pour que nous, on se pose la question et qu'on y réfléchisse. Et quand Dieu nous dit « Pourquoi est-ce que tu fais cela ?», nous devons commencer à réfléchir à l'intérieur de notre cœur et dire « Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je fais ceci ? Pourquoi est-ce que j'ai succombé au péché. Quand il parle à Ève, Dieu, il lui pose la question, pourquoi as-tu fait cela? Elle dit, ah, c'est le serpent qui m'a séduite. Est-ce que le péché n'est pas quelque chose qui nous séduit? Imaginez un instant que le diable, au travers du serpent, il est dit, voilà, quand tu vas manger le fruit défendu, voilà ce qui va se passer, tu vas enfanter dans la douleur, des douleurs que tu n'as jamais connues. C'est, je ne sais plus combien de fois, une douleur, quand on se casse le bras, mon épouse pourrait vous expliquer tout ça, la douleur de l'enfantement. Nous, les hommes, on ne peut pas comprendre. Mais imaginez que le serpent, il est dit, voilà, tu vas enfanter dans la douleur, l'homme devra travailler à la sueur de son front et ça va être dur, il faudra vraiment travailler la terre. Si vous mangez le fruit défendu, voilà ce qui va se passer. Vous, il va y avoir la maladie qui va rentrer, la communion avec Dieu va être brisée. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Surtout, on ne va pas manger ce fruit, hein. Surtout, non, non. Mais voilà, la séduction, c'est qu'on fait croire certaines choses. Et s'il y a la séduction du péché, il y a la désillusion du péché qui vient par la suite. Souvent, le diable nous présente le péché comme quelque chose de bon, comme quelque chose d'appétissant, mais quand on y goûte, tout de suite après, on a les conséquences qui sont là, qui font mal, qui brisent, qui amènent la peine, qui amènent la désolation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi Dieu a posé cette question. Où es-tu? Ah, je me cache. Peut-être que pour quelqu'un, c'est la question que Dieu doit vous poser cet après-midi. Où en êtes-vous par rapport à l'éternité? Où en êtes-vous par rapport au péché? Où en êtes-vous par rapport à Dieu? Est-ce que vous êtes loin de Dieu? De toute façon, quand on est près du péché, on est loin de Dieu. Et inversement, quand on est près de Dieu, on est loin du péché. Agar a entendu cette question, d'où viens-tu et où vas-tu? Vous savez d'où elle venait, Agar? Elle venait de cette famille qu'il avait mis dehors, elle venait de subir un rejet, elle venait d'être abandonnée dans le désert, et elle était là, en train de se morfondre, parce qu'elle était sans eau, perdue totalement avec son fils, et comment dire, l'ange de l'Éternel apparaît et lui pose cette question, d'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que ce n'était pas un moment où elle avait besoin de s'arrêter aussi dans sa vie? S'arrêter pour réfléchir, s'arrêter pour entendre la voix de Dieu, peut-être. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on fait tellement de choses, on est tellement occupé, on est tellement emporté par toutes les circonstances, qu'on ne prend pas des temps pour s'arrêter, pour réfléchir aux choses importantes. Et le Seigneur permet des fois des moments difficiles. Le désert, est-ce que c'est difficile? La solitude, est-ce que c'est difficile? C'est ce qu'elle a vécu, cette femme. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a pu entendre la voix de Dieu. Cet homme, Saul, il a connu un de ces moments. Se retrouver 3 jours, lui qui était parfaitement, qui voyait parfaitement, s'est retrouvé 3 jours dans les ténèbres. Est-ce que c'était bien? Le fait de se retrouver dans les ténèbres, est-ce que c'est bien? Quand on a l'habitude de voir, c'est difficile. Mais est-ce que c'était bien? Oui, parce que c'était le plan de Dieu pour que cet homme s'arrête et réfléchisse à sa vie. Vous imaginez qu'il était ce blasphémateur, c'est-à-dire qu'il devait dire à tout le monde que Jésus n'était pas le Christ. C'était ça son combat, son cheval de bataille, c'est que partout où il allait, il disait non. Les chrétiens annonçaient que Jésus était le Christ, lui il disait non, c'est pas vrai, il est mort. Voilà ce qu'il disait. C'était un homme violent, il défendait son beefsteak avec violence. Mais une question du Seigneur, est venue à bout de cet homme. Est-ce que cet après-midi, on ne veut pas dresser l'oreille et dire Seigneur, ben oui, pose-moi une seule question. Mais moi aussi, de mon côté, je veux être honnête. Cet homme n'a pas résisté, cet homme ne s'est pas regimbé contre les aiguillons, comme c'est écrit par la suite. Il est resté honnête, il a laissé le Saint-Esprit travailler son cœur jusqu'à être vraiment convaincu de péché, avoir la profonde honte. Quand on voit de quelle manière il parle de son témoignage, il dit « Je suis le premier des pécheurs, je suis le pire de tous les pécheurs, mais Dieu m'a fait grâce. » Quel encouragement cela nous fait. Et cet après-midi, est-ce que pour nous, Seigneur ne veut pas nous dire, pourquoi fais-tu cela? Souvent, aujourd'hui, on entend des gens qui disent le contraire, qui disent à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi est-ce que toi, Dieu, tu fais ça? Et ils se plaignent. Oh, mais si Dieu existe, il ferait ceci, il ferait cela. Il y a un verset qui nous dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? L'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Vous imaginez? Vous êtes en train de dessiner un croquis et le dessin, il se met à parler et dire « tu dessines mal, là, tu devrais l'arranger ». Vous imaginez le truc?
Ça ferait peur. Ça me ferait peur, moi. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se passe quand un être humain choisit de dire « Que fais-tu, Seigneur ?» Dans ma situation, si tu existais, alors tu ferais ceci ou cela. Qui on est ? Pour qui on se prend pour pouvoir parler ? Si Dieu vraiment existe comme nous on le croit, qui on est pour pouvoir parler de cette manière, sans respect, sans retenue face au Dieu créateur, face à celui qui nous a donné la vie ? Non, nous devons plutôt laisser le Seigneur nous parler, nous poser cette question. Que fais-tu ? Pourquoi fais-tu cela ? Et regardez ce qui se passe au verset 6. On peut lire le verset 5 pour enchaîner. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le Seigneur pose une question. « Pourquoi fais-tu cela ?» Il y a tout un travail qui se fait dans le cœur de l'apôtre Paul. Il en arrive à être tremblant et saisi d'effroi parce qu'il est en train de se rendre compte que jusqu'à présent, toutes les forces qu'il avait déployées, tout le zèle qu'il avait mis dans sa religion, ça servait strictement à rien parce que c'était une erreur. Et il se retrouve face à Jésus qui est vivant en chair et en os devant lui. Et il est tremblant, saisi d'effroi. Et il commence à dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Est-ce que ça, c'est pas une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur ? Parce que souvent, les hommes, ils ont peut-être certains ont eu des visions de Dieu, ils ont eu des guérisons merveilleuses, des expériences incroyables. Mais après, ils ne disent pas cette phrase, « Que veux-tu que je fasse ?» Ils en restent là. « Merci Seigneur, c'est très bien. Maintenant, je continue ma vie. Tu m'as sorti de la galère, Seigneur, c'est super. Mais maintenant, moi, je continue ma vie pour moi-même. » Cet homme, il a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Comme le disait John tout à l'heure, c'est tous les jours qu'on se lève en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seigneur, je veux abandonner ma vie et je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse. » Mais il y a un piège dans lequel on peut tomber quand on dit cette phrase. « Que veux-tu que je fasse ? Que ferais-je ? » Il y a un homme c'est dans Luc chapitre 12, un homme qui s'est posé la question à lui-même. Il n'a pas posé au Seigneur, il a dit « Que ferais-je ? » Et il a réfléchi avec son intelligence, vous connaissez cet homme qui est dans une parabole de Jésus, Luc chapitre 12, verset 16. Jésus leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Un homme qui dit, « Que ferai-je ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Maintenant, il ne dit pas « Seigneur », il dit, « Mon âme, que veux-tu que je fasse ?» Ah, ben voilà, il faudrait que tu agrandisses un peu tes greniers parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, il faut que tu fasses tel projet. Et il a sûrement la maquette dans son bureau du projet du futur bureau qu'il doit avoir. Et puis, la nuit même, le Seigneur lui reprend l'âme. Parce que notre âme ne nous appartient pas. Notre vie, elle est entre les mains du Seigneur. Et lui, il sait à quel moment ça s'arrête. Et ce n'est pas à nous-mêmes que nous devons dire « Que ferais-je ? » Bien sûr qu'il faut... Il y a des choses qu'il faut... décider par nous-mêmes. Il n'est pas question de demander au Seigneur quelle chemise je vais mettre aujourd'hui. Comprenez bien, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Mais les décisions importantes de nos vies, là où ça engage peut-être tout le reste de notre existence, il y a des décisions comme ça qui sont importantes dans notre vie. Est-ce que nous sommes de ceux qui disent à leur âme, que ferais-je ? Je vais me débrouiller par moi-même. Ou est-ce que nous sommes de ceux qui disent, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est ton conseil que j'ai besoin d'avoir. Oh oui, il y en a, ils vont dire, mais oui, mais moi j'aimerais comme l'apôtre Paul, qu'il y ait une lumière incroyable qui brille et que je sois saisi par la présence du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce n'est pas la lumière après laquelle nous soupirons ? La parole de Dieu, c'est cette lumière qui est là sur notre sentier, Oui, bien sûr qu'on peut vivre des expériences particulières comme l'apôtre Paul, mais est-ce que cette lumière-là n'est pas suffisante pour cet après-midi nous amener dans la présence de Dieu, pour convaincre nos cœurs, pour nous questionner par rapport à ce que nous faisons, et pour nous amener à cette réalité que nous devons obéir à ce qui est révélé? Que devons-nous faire? Il y a tellement de choses, on pourrait lire toute la Bible pour savoir ce que nous devons faire. Mais j'ai choisi justement quelques versets, je ne veux pas non plus vous saturer. Regardez ce verset dans les Ecclésiastes. Ecclésiastes chapitre 12. C'est écrit noir sur blanc ce que nous devons faire. Est-ce que vous êtes prêts, en lisant ce passage, à dire: Seigneur, mais si tu me dis que c'est ce que je dois faire, alors je veux le faire. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Dieu lui a dit: lève-toi, va dans la ville et on te dira. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à réfléchir, à raisonner. Il s'est levé et il est allé dans la ville. Ecclésiastes chapitre 12. Verset 15, c'est la conclusion du livre des Ecclésiastes. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Seigneur, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà pourquoi ce verset nous invite à avoir la crainte de Dieu. Et cet homme qui était là, seul, qui était là tout tremblant et saisi d'effroi, il a commencé à avoir cette crainte du Seigneur. Il a commencé à avoir ce saint respect, la présence de Dieu. Il a commencé à se rendre compte de sa position, de son péché, de son orgueil, etc. Et le Seigneur a travaillé son cœur. Il lui a permis, pendant ces 3 jours, de régler ces choses. 3 jours ont permis à l'apôtre Paul de faire le nettoyage dans sa vie, le grand nettoyage dans sa vie. Est-ce qu'il en avait besoin? Mais on le disait, blasphémateur, homme violent. Est-ce qu'il avait besoin? Bien sûr. Mais le Seigneur a permis. Il a permis que ces jours soient là pour que ce travail soit fait. Regardez dans Luc chapitre 10, un homme qui vient poser la question carrément au Seigneur et qui lui dit: Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que c'est une bonne question? Ah ben, c'est une bonne question, oui. Surtout quand on vient auprès de Jésus, on ne se la pose pas à nous-mêmes. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ah ben, si tu récites tant de prières, si tu donnes tant d'argent à l'église, c'est sûr que tu vas avoir la vie éternelle. Non, non, non. Regardons ce que la parole de Dieu dit, regardons ce que Jésus dit. Au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc même la réponse de ce docteur de la loi, c'était une bonne réponse. Par contre, il y avait un problème avec ce docteur de la loi, c'est que le motif dans lequel il disait: Seigneur, que dois-je faire? Il n'était pas bon. Il lui demandait ça pour éprouver le Seigneur. Mais la réponse qu'il a donnée était la bonne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et que devons-nous faire aujourd'hui si nous voulons marcher dans les voies du Seigneur? Nous devons aimer Dieu plus que toutes les choses que nous pouvons avoir ici-bas sur notre terre. Et Dieu n'est pas injuste, ne demande pas des choses folles, puisque tout de suite après il est dit: et ton prochain. Parce que quand on aime Dieu, quand on laisse l'amour infini de Dieu nous remplir, alors obligatoirement les personnes qui sont autour de nous sont les premières à en bénéficier. Mais si nous voulons faire des personnes autour de nous les priorités dans notre amour, alors à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on va être totalement épuisé, totalement vide de tout amour. Mais si on est branché, connecté sur la source divine de l'amour, alors là, il n'y aura jamais de problème. Il y a un homme qui a rencontré l'apôtre Paul et qui a posé cette question. Vous le connaissez, cet homme, le geôlier de Philippe. Il a dit: que dois-je faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Est-ce que c'était une bonne question, encore une fois? Une très bonne question. Et qu'est-ce que Paul et Silas ils lui ont répondu? Crois. Crois au Seigneur Jésus. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Pourtant, c'est le même seul là, qu'on a lu. Mais seul, l'apôtre Paul, à ce moment-là, il a dit: crois au Seigneur Jésus.
Avant, il disait « Ne croyez pas au Seigneur Jésus », mais cette fois-ci, il dit « Crois ». Il a expérimenté, il a vu que c'était vrai, il a vécu dans sa vie une transformation intégrale, et il dit, la seule chose qu'il peut dire à cette personne pour être sauvé, il dit « Crois ». Place ta foi, ta confiance dans le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Regardez dans les Actes, chapitre 2, verset 37. Après ce discours fabuleux de l'apôtre Pierre au moment de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, apporte ce message et il est dit au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Alors, de quelle manière le cœur a été touché de ces hommes? Ben, il a été touché parce qu'ils ont été convaincus de péché, qu'ils avaient mis à mort Jésus-Christ injustement. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Repentez-vous. Que devons-nous faire? Vous repentir. Que devons-nous faire? Aimer votre prochain. Aimer Dieu en premier. Que devons-nous faire? Craindre Dieu. » Et on pourrait multiplier les exemples. Je finis juste avec ce verset que je n'avais pas noté. Dans Ézéchiel, je trouve que c'est important quand même de le rappeler. Ézéchiel chapitre 18. Alors, je le retrouve, Ézéchiel chapitre 18, oui c'est ça, verset 31, il est dit noir sur blanc ce que nous devons faire. Ézéchiel 18, 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Amen. Est-ce que c'est clair quant à la réponse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce que c'est assez clair comme réponse? Alors, est-ce que nous pouvons nous faire un cœur nouveau? Est-ce que vous avez la possibilité de transformer votre cœur par vous-même? Dit comme ça, c'est... la réponse est simple, c'est non. Est-ce que quelqu'un peut-il changer son cœur s'il a un caractère de cochon, comme on dit? Est-ce que par lui-même, il peut changer son cœur? Du tout au tout, instantanément. Non. Pourtant, il est dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais il est dit juste en dessus, voilà votre part, par contre, c'est de rejeter le péché, de vous repentir de votre péché, de vous convertir, de choisir de faire de Jésus votre Sauveur et Seigneur. Et alors que vous faites ça, de manière spirituelle, le Seigneur Tout-Puissant fait sa part de son côté, il vous donne cette vie nouvelle, il vous donne cette transformation de cœur, il vous donne cet esprit nouveau, il permet par sa grâce que le sang de Jésus lave votre péché, bien sûr, si vous mettrez votre foi en lui. Et le problème, c'est que on a souvent des gens qui disent « Ah, que devons-nous faire ?» Et ils cherchent à obéir à toutes sortes d'ordonnances. Et ils cherchent à faire ceci ou cela. Dans un chapitre de Jean 6, il y a des gens qui viennent voir Jésus et ils disent justement « Mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Des gens qui sont archi-religieux, qui voudraient un commandement de plus à ajouter. Jésus leur dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, c'est que vous ayez la foi. » Et comme c'est quelque chose qui les embête un peu, c'est trop simple, c'est trop facile, et ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et ils disent à Jésus, quel miracle fais-tu? Vous savez ce que le Seigneur leur répond? Moïse, il a donné la manne, mais moi, je suis le vrai pain qui descend du ciel. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Parce que Jésus est celui qui a été envoyé de la part de Dieu pour venir sur la terre, afin que par son sacrifice, nous puissions avoir notre vie qui soit totalement transformée, le péché soit totalement effacé, oublié dans notre vie, que nous puissions connaître cette vie nouvelle, où la grâce de Dieu fait son œuvre dans notre cœur. Comme l'apôtre Paul qui a vécu cette transformation incroyable, lui qui persécutait les chrétiens, c'est devenu celui qui en parler de Jésus-Christ à tout le monde avec le zèle que personne ne pouvait imiter. Donc on va le lire dans Actes chapitre 9. Regardez ce qui s'est passé. On reviendra un petit peu avant sur les versets qui précèdent, mais au verset 20 par exemple, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui l'invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour emmener lié devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen.
Et quand vous lisez tout le livre des Actes, quand vous lisez les Épîtres, vous comprendrez que cet homme, il ne s'est pas arrêté de grandir à ce moment-là, il ne s'est pas arrêté de se fortifier dans la foi à ce moment-là, mais jusqu'à la fin de sa vie, il est devenu quelqu'un qui a été utilisé de la part de Dieu pour amener la bénédiction dans une grande portion de l'Asie. Quelque chose d'incroyable qui s'est passé à cause d'un homme qui a choisi de mettre sa foi en Dieu. Frères et sœurs, est-ce que cet après-midi, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver? Est-ce que le Seigneur, par une question qu'il nous pose, est-ce qu'il ne peut pas transformer notre vie? Est-ce que ce n'est pas le Dieu de l'impossible, notre Dieu? Alors on va incliner nos fronts. J'avais d'autres choses à partager, mais je voudrais m'arrêter là. Parce que je crois que c'est suffisant. Ce que nous avons attendu au travers de la parole est suffisant pour nous amener à réfléchir. Souvenez-vous de ce verset. Retenez peut-être ne serait-ce que ce verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quelqu'un cet après-midi a besoin de s'arrêter dans sa vie. Quelqu'un cet après-midi a besoin de regarder vers le passé, de regarder, de constater tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Souvent, on reproche à Dieu de ne pas agir. Pourquoi ne fais-tu pas ceci, ne fais-tu pas cela? Mais quand on regarde avec honnêteté le passé, on se rend compte que c'est nous qui avons pris de mauvaises voies. C'est nous qui avons pris de mauvaises décisions. Et on reproche à Dieu ce que nous, on n'a pas fait. Mais le Seigneur n'est pas celui qui nous condamne. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour le sauver. Bien sûr que ça passe par cette conviction qu'on est pécheur. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cette parole cet après-midi. Pourquoi me persécutes-tu? Ah, bien sûr, ce n'est pas de manière physique. Mais pourquoi est-ce que tu es blasphème contre le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu te rebelles contre ton Dieu qui t'a créé? Pourquoi est-ce que tu ne te soumets pas à celui qui t'a donné la vie? Pourquoi, toi qui es un vase d'argile, ne restes-tu pas docile entre les mains du potier? Pourquoi, dis-tu de manière continuelle, que fais-tu? Le Seigneur te retourne la question et te dit, toi, que fais-tu? Allons-nous laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur cet après-midi? Qui dans cette présence, qui à l'écoute de cette parole va dire de tout son cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, quelles sont les ordonnances, les commandements que tu veux que je fasse? Seigneur, je crois que tu es celui qui veut me diriger pour amener la grâce dans ma vie. Oui, c'est vrai que ça fait des années que je combats tel péché, ça fait des années que je vis les conséquences du péché parce que je me suis trompé et j'ai été abandonné, rejeté de tous. Je suis comme dans un désert, comme Agar. Alors entendez cette prière, cette question plutôt. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Et répondez au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur fera son œuvre dans votre vie, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul, avec Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Il veut faire la même chose pour vous. Éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui se plaît à nous arrêter quand nous courons vers la perdition. Tu es le Dieu qui se plaît à venir nous rejoindre dans la détresse pour nous en sortir, pour changer le mal en bien, pour, Seigneur, amener la bénédiction alors que nous sommes dans la malédiction éternelle. Tu connais les cœurs de ceux qui sont là cet après-midi. Tu vois, Seigneur, les questions qu'ils se posent, les questions qu'ils voudraient te poser. Seigneur, mais surtout qu'ils puissent te poser cette simple question. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Seigneur, tu vois combien de gens, même dans la Bible, t'ont posé cette question et sont passés à côté. Ce jeune homme riche qui est reparti tout triste. Seigneur, que personne cet après-midi, personne qui se pose la question de comment il peut avoir la vie éternelle, personne ne puisse repartir tout triste de ce lieu, mais qu'au contraire la joie qu'il découle de quelqu'un qui se repent, que cette joie soit son partage. Merci parce que tu nous as donné les indications. Repentez-vous, Seigneur, tu nous as dit. Convertissez-vous, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire tous les jours de notre vie. Nous voulons, Seigneur, laisser la place dans notre cœur pour que tu fasses ton œuvre. Tu bénis ces instants éternels. Amen. Amen. Il va y avoir un chant qui va être apporté. Pendant ce chant, si vous voulez que le Seigneur intervienne en votre faveur, si vous avez un besoin particulier, Paul s'est rendu compte que Jésus était vivant. Mais par la suite, Paul a pu même prêcher que Jésus était celui qui guérit. Et nous croyons que Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui guérit les cœurs. Jésus est celui qui guérit les corps. Jésus est celui qui guérit les âmes. Alors si vous avez un besoin, si vous voulez que le Seigneur puisse vous toucher encore cet après-midi, changer peut-être votre caractère, approchez-vous de lui. Approchez-vous sur le devant et nous prierons avec vous. Amen.
Je